C'est quoi le mot principal de l'évangile que nous venons d'écouter? J'ai une question. C'est quoi le mot principal de l'évangile que nous avons écouté? C'est le baptême. Il est dit à plusieurs fois en plus dans l'évangile. Jésus était venu pour être baptisé. Et dès qu'il eut ce baptême, voilà, sorti de l'eau, il y a plein de temps. Donc, le mot principal de l'évangile, c'est le baptême. C'est quoi le baptême? Je parle à des gens qui sont baptisés, n'est-ce pas? C'est quoi le baptême? Je vais vous faire une catéchèse aujourd'hui sur le baptême. Ça vous va? Nous, les catholiques, on est des fois assis sur des richesses, mais on ne sait pas les exploiter. Beaucoup viennent dans la messe, beaucoup prient, beaucoup font ceci, font cela, mais ils ne savent pas le pouvoir qu'ils ont, ils ne savent pas la grâce qu'ils ont. C'est parce qu'on ne connaît pas. C'est un sacrement, d'abord c'est un sacrement, voilà. Et c'est quoi un sacrement?
Sacrement des malades.
Et puis, le Seigneur qui a des malades. l'onction de l'huile, on est envoyé, envoyé pour témoigner. On ne peut que témoigner de ce que nous avons reçu. Voilà. Ça va? Les trois, donc baptême, communion et confirmation, initiation chrétienne. Après, il y a la confession et le sacrement des malades, qu'on n'appelle plus le dernier sacrement, non. C'est pas une oubli, l'extrême onction, non. Le nom véritable, c'est le sacrement de guérison. De guérison, de restauration. Les deux sacrements, la confession et le sacrement des malades, on les appelle des sacrements de guérison. Quand vous partez voir un prêtre pour vous confesser, ça veut dire que vous avez un problème. Il y a un problème, n'est-ce pas? Le prêtre, il vous pardonne au nom du Christ. Au nom du Christ, il pardonne tes péchés. Va, tes péchés sont pardonnés. Comme dit le Christ dans les évangiles. Dans ce sacrement, on est libéré, on est guéri. Ça va? Et le sacrement des malades, on reçoit la force de Dieu. C'est pour qu'on soit fortifié dans notre corps, dans notre maladie. La force de Dieu. Ce n'est pas un sacrement qu'on reçoit pour passer à l'autre. Non, non, non. Ça va? Donc, on est tous des malades. Ambulance. Et on a besoin de la force de Dieu pour vivre, pour continuer le chemin. Et puis après, ça fait 5, non, 3 plus 2, ça fait 5, il reste 2. Le mariage et le sacrement de l'ordre, les deux, on les appelle les sacrements de. J'aimerais que ça vienne de vous, parce que vous et moi, on sait. D'alliance, voilà. D'alliance ou bien de. Quand deux personnes sont ensemble, comment on appelle?
De l'union
ou de relation. C'est un sacrement de relation. Le mariage et l'ordre, sacrement de relation. Ça va? En tout cas, ça va pour aujourd'hui. Quand nous revenons au niveau du baptême, en fait, aujourd'hui, nous fêtons le baptême de Jésus-Christ. Dans l'évangile, nous voyons le Christ qui va vers son cousin, Jean le Baptiste. En fait, Jean baptisait, si vous prenez au début de l'évangile, Jean était dans le Jourdain, il baptisait des gens. Tout le monde venait à lui, il est baptisé. C'était pourquoi? C'était un baptême de quoi? De repentance, de conversion. C'est quoi être converti? Être converti, c'est-à-dire en train de marcher. On marche, on marche, on marche. Être converti, c'est ça. C'est ça. Être converti, c'est ça. C'est changer. Changer de cœur. Changer de chemin. De revenir. Revenir vers le Seigneur. Et j'en sais qui est le Christ. Parce que, bien avant le baptême, il annonce. Il annonce. Il dit, celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de délier la croix de ses sandales. Car avant moi, il était. C'est lui, le Messie. Il a annoncé, c'est lui le Messie. C'est lui qui vient sauver Israël. Et quand Jean voit Jésus venu à lui pour être baptisé, et il y a un problème. Jean se dit, ça ne va pas là. C'est quoi dans l'évangile? Jean doute. Il résiste à la demande du Christ. Et le Christ va lui dire, laisse faire, laisse faire. Dans la première lecture que nous avons entendue du livre d'Isaïe, on parle du serviteur souffrant. Il est dit quoi? Ce serviteur, il fait quoi? Il s'abaisse, il fait silence. Saint-Esprit, il se donne à celui qui l'a envoyé. Ce serviteur, il laisse grandir, il laisse la place à celui qui l'a envoyé. Il s'efface. Frères et sœurs, si nous voulons être chrétiens aujourd'hui, il ne s'agit pas de nous effacer, voilà, une humilité tout à fait, voilà, mondaine. Il s'agit en fait de nous effacer devant Dieu. Je m'explique. Parce qu'il y en a qui se prêtent des fois pour Dieu. Par exemple, quand vous gérez vos maisons, les pères de famille, les mères de famille, voilà, ceux qui travaillent dans les bureaux, comment vous gérez vos ouvriers, ceux qui sont en dessous de vous, ou bien les responsables, voilà, des services à l'église, pour les savoir, voilà, vous voyez, on est assis sur notre trône, alors que nous sommes invités à descendre de notre trône pour laisser ceux qui siègent sur le trône, pour laisser Dieu, et qu'on puisse nous recevoir de lui. Nous sommes invités à nous, à déposer quelquefois nos couronnes de ceci, couronnes de cela, à les déposer devant celui qui est là, qui est couché. Les mages l'ont fait la semaine dernière, en venant lui offrir tout ce qu'ils ont de précieux. Il s'agit pour nous, en fait, de pouvoir laisser la place au Créateur. Laisser la place au Créateur. Quelle place tu laisses au Créateur? Quelle place tu laisses à Dieu? Quand tu viens prier, est-ce que tu fais confiance jusqu'au bout? Ou bien tu contrôles Dieu? Ah, il m'a pas répondu. Je le guette. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'écoutes? Et on fait des neuvaines sur des neuvaines, on fait des prières sur des prières, comme si Dieu était un Dieu qui n'écoutait pas. Il écoute, mais c'est parce que parfois, on ne fait pas attention à ce qu'il dit. Il s'agit pour nous, frères et sœurs, d'entrer dans cette communion, dans cette relation, de faire un avec lui. C'est important. Le serviteur souffrant, c'est ce serviteur qui s'abandonne entre les mains du Père. Isaïe avait déjà prédit bien longtemps, des siècles avant la naissance du Christ. Il parlait de qui? Il parlait du Christ. En voyant pendant la passion, nous comprenons la prophétie d'Isaïe. Le Christ est allé jusqu'au bout. Il savait que son Père ne pouvait pas l'abandonner. Est-ce que nous savons que le Père ne peut pas nous abandonner? C'est ça. Est-ce que nous savons que le Père nous écoute quand nous prions? Pour nous, vraiment d'entrer dans cette communion avec le Père. Le Christ reçoit le baptême. Ce n'est pas, pour lui, ce n'est pas un baptême de conversion. Il nous montre le chemin. Pour nous sauver, lui, Dieu, comme on dit, libre aux Philippiens, vu de nature divine, n'a pas retenu Jean-Jean le rang égal à Dieu. Il s'est anéanti jusqu'à nous pour prendre notre, épouser notre humanité. Il se met à notre niveau pour nous sauver. Le Christ est l'un de nous. Voilà. Né d'une femme, il est l'un de nous. Pour nous sauver jusqu'au bout, il va nous montrer le chemin. Le chemin. chemin, le baptême n'est plus seulement un chemin de conversion, mais un chemin qui nous conduit même à Dieu le Père. Un chemin qui nous fait entrer dans la vie de Dieu. Il est dit, quand il descend dans l'eau, il reçoit le baptême, et quand il en sort, il y a une voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis pour mon amour. Voilà. À notre baptême, Dieu nous a dit ces paroles. À notre baptême, les cieux s'ouvrent. Nous sommes invités, frères et sœurs, à accueillir jour après jour les grâces de notre baptême. Quand nous sommes baptisés, nous devenons fils et filles bien-aimés du Père. Nous avons une place dans le cœur du Père. Et ça, c'est pour nous d'accueillir cette grâce. Et d'être conscient de cela. Ce n'est pas... Voilà, c'est pourquoi j'ai pris le temps de vous citer les sacrements, les significations, ainsi de suite. Par le baptême, nous entrons dans la vie même de Dieu. Dans la vie même de Dieu. Nous devenons un avec lui. Et quand nous sommes un avec Dieu, c'est-à-dire, nous sommes invités à produire justement les fruits, de bons fruits. Nous sommes invités à aimer. Nous sommes invités à pardonner. Nous sommes invités à faire confiance. Nous sommes invités à la fidélité. Voilà ce que l'Église nous enseigne aujourd'hui à travers le baptême du Christ. Pour terminer, l'eau a une double signification dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament aussi. La première signification de l'eau dans laquelle le Christ a été baptisé et dans laquelle nous avons été baptisés, n'oubliez pas que le baptême du Christ rappelle notre baptême. La première signification de l'eau, c'est que l'eau détruit. Qui se rappelle dans l'Ancien Testament? Un épisode. Noé. Le déluge. L'eau a le pouvoir de destruction. Par le baptême, l'eau détruit le mal. Le mal. Par le baptême, l'eau nous purifie. Et la deuxième signification de l'eau du baptême, l'eau donne la vie. L'eau donne la vie. Dans l'Ancien Testament, il y a un passage très important aussi, où l'eau donne la vie. Oui. Vous partez chaque année à la veille pascale. C'est quoi? Ézéchiel. Oui, oui, mais il y a un passage dans l'Ancien Testament où l'eau donne la vie. Et cette vécue, on la répète toutes les années à la veille pascale. Passage de la mer rouge. C'était passage de la mer rouge. Le peuple hébreu est pourchassé par Pharaon et sa puissante armée. C'est la mort qui les guette, qui les poursuit. Et Moïse et le peuple arrivent au bord de la mer rouge. N'oubliez pas la première signification de l'eau que je vais vous donner. L'eau va détruire. Devant eux, il y a la mort. Derrière eux, il y a la mort. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, Moïse et moi, Moïse, se tourne vers Dieu, implore Dieu, et Dieu lui dit, frappe la mer avec le bâton de Dieu. Et quand Moïse frappe le bâton, la mer fait quoi?